France Culture.
France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Donald Trump continue de menacer verbalement et militairement le régime de Téhéran. Les chancelleries s'interrogent sur ses intentions. L'armée iranienne est évidemment en état d'alerte maximale. Son chef vient de le préciser il y a une heure tout juste. Et alentour, à l'échelle du Moyen-Orient tout entier, meurtri par tant de violences, les lignes de faille s'accentuent, les rapports de force se recomposent. Les deux grandes puissances sunnites, la Turquie et l'Arabie Saoudite, prêchent la stabilité en pressant Washington de résister à Israël et à la tentation d'accélérer le chaos régional. Les Émirats, qui ont aussi l'oreille du président américain, mènent leur propre parti, n'hésitant plus, à la différence de Riyad, à se rapprocher de Jérusalem. Les États-Unis et jusqu'à un certain point la France et le Royaume-Uni jouent en Syrie la carte Al-Shara, cet ancien djihadiste devenu président qui récupère ainsi les champs pétroliers du nord-est du pays aux dépens des Kurdes. Les Kurdes, une fois de plus trahis par l'histoire, eux qui pendant 15 ans avaient rêvé d'un État entre le Tigre et l'Euphrate, en payant de leur sang leur contribution à la coalition occidentale et à l'élimination de Daesh, eux qui maintenaient en détention des milliers de combattants islamistes évacués ces jours-ci dans le désordre vers les prisons irakienne, avec plusieurs évasions à la clé et le risque d'une recrudescence de la menace terroriste en Europe. L'Irak, comme la Syrie, reste menacée par la fragmentation confessionnelle. Le gouvernement de Bagdad est défié par des milices chiites, toujours liées à l'Iran, bénéficiant de leurs propres circuits économiques. Paradoxalement, parmi tant de convulsions, c'est par l'investissement, les enjeux gigantesques de la reconstruction, qu'en Syrie comme à Gaza, les principaux protagonistes affichent leurs ambitions. C'est bien l'objectif de cet étrange Conseil de la paix à la main de Donald Trump, censé collecter 30 milliards de dollars pour faire surgir une nouvelle Riviera. Où sont donc passés la communauté internationale, l'ONU, les outils traditionnels de la diplomatie multilatérale? On hésite même à ressusciter ce vocabulaire tant il paraît désuet. Que fait Moscou, allié de Téhéran et toujours proche de Damas? Quel est l'agenda du président turc qui se pose en médiateur? Paris salue l'accord intervenu hier entre le président syrien et le chef des forces kurdes. La France, les Européens ont-ils encore la moindre influence? La Chine achète à l'Iran une part de son pétrole. Quel est son jeu? Donald Trump veut contraindre Téhéran à abandonner ses ambitions nucléaires sans se préoccuper des souffrances infinies de la population iranienne. À défaut d'un changement de régime, le régime peut-il transiger? Les États-Unis sont-ils en définitive les seuls à garder la main sur ce Moyen-Orient qu'ils ont tant contribué à déstabiliser? C'est ce que nous allons comprendre ce matin grâce à vous, Dorothée Schmidt. Vous êtes la responsable du programme Turquie-Moyen-Orient de l'Institut français des relations internationales. Myriam Benrad, politologue, professeur honoraire à l'Université d'Exeter au Royaume-Uni. Vous enseignez à l'École des hautes études internationales et politiques. Michel Duclos, ravi de vous retrouver. Vous êtes conseiller spécial à l'Institut Montaigne et vous avez été ambassadeur de France à Damas de 2006 à 2009. Karim Émile Bitard, professeur de relations internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et aussi ici à Sciences Po Paris. Karim, je commence avec vous. Donald Trump a répété hier encore, avec évidemment le décalage horaire, qu'il est toujours prêt à plusieurs options militaires qui lui ont été encore une fois exposées hier. À Téhéran, le chef de l'armée, il y a une heure à peu près, prévient Washington que les forces armées iraniennes sont en état d'alerte maximum. De part et d'autre, on assiste à quoi? À une sorte de grand spectacle, en tout cas du côté américain.
Un grand spectacle qui est aussi une guerre psychologique. Cette gigantesque armada qui se déploie rappelle un peu ce qu'on appelait au 19e siècle la diplomatie de la canonnière. On essaie, à travers un étalage de force, des pressions politiques, des sanctions économiques, de forcer la main du régime iranien pour qu'il accepte un deal. Trump n'était pas forcément, au départ, partisan d'un changement de régime. Il faut se rappeler que pendant la guerre des 12 jours, les avions israéliens étaient en route, souhaitaient aller au bout et faire tomber le régime iranien. Et c'est alors que Trump a publié en lettres capitales un tweet leur intimant l'ordre de revenir en disant « j'ai négocié un cessez-le-feu ». Depuis, les choses ont beaucoup évolué. La répression en Iran a pris une tournure absolument abominable. C'est la répression la plus violente depuis 1979. Donc Trump est quelque peu tiraillé entre une partie de sa base qui ne veut pas de nouvelles expérimentations hasardeuses au Moyen-Orient, une partie de ses alliés moyen-orientaux qui craignent une déstabilisation, et le fait que reculer à ce stade apparaîtrait comme étant une nouvelle capitulation face à un régime autoritaire. Donc tout va se jouer dans la psychologie de Trump, et c'est bien ça qui est inquiétant. C'est souvent le dernier qui a parlé qui a raison, celui qui trouve les mots les plus appropriés pour le flatter dans le sens du poil. Je pense que le scénario optimal à ses yeux serait une sorte de changement de comportement du régime, behavior modification, une nouvelle figure qui émergerait peut-être du système, ce qui lui permettrait de dire qu'il a atteint certains objectifs, mais je ne suis absolument pas persuadé que les droits de l'homme du peuple iranien ou des femmes iraniennes soient sa principale préoccupation.
Mais il n'en parle pas du tout, donc ça c'est assez clair.
Il n'en parle quasiment pas, et même après l'intervention au Venezuela, c'était très frappant lorsque les journalistes lui ont demandé dans son avion « Qu'en est-il des prisonniers politiques? Vous allez enfin les libérer ?» Il a dit « On verra ça beaucoup plus tard, maintenant on est en train de négocier avec les entreprises pétrolières. » Donc autant j'ai de la sympathie pour les Iraniens qui ont hâte de voir ce régime chuter, autant il est légitime de s'interroger quand il n'y a pas le moindre plan pour le jour d'après, comme ce fut le cas dans les guerres précédentes dans cette partie du monde.
Michel Duclos, Donald Trump insiste sur l'arrêt de tout programme nucléaire iranien. On se souvient qu'à l'issue de la guerre des 12 jours en juin, il avait dit on a tout détruit, ce qui est manifestement faux. Il y a certainement des silos d'uranium enrichi enfouis quelque part qui n'ont pas été détruits. Mais ce que l'on vérifie, Michel, c'est en fait les deux grandes puissances sunnites, donc la Turquie et l'Arabie Saoudite, qui disent surtout, on est surtout pas touche en quelque sorte.
Oui, et cette fois-ci, même Israël aurait déconseillé de passer à l'attaque. Israël, soit parce qu'il se sent encore trop faible pour pouvoir s'opposer à des frappes israéliennes contre son territoire, soit parce qu'il n'était pas très convaincu de l'efficacité de ce que les Américains étaient en train de préparer.
Qu'à Jérusalem, Benjamin Netanyahou, qui est un échéancier de politique intérieure, se dit que c'est peut-être l'occasion d'empêcher Téhéran de reconstituer son programme de missiles balistiques. Il semble qu'il y ait un changement de ton à Jérusalem.
J'ai pas vraiment répondu à votre question. Au fond, Trump, s'il se décide à passer aux actes, que quand même beaucoup d'observateurs considèrent comme probable, il peut viser soit le changement de régime, soutenir les opposants, etc. C'était son idée il y a 15 jours. Soit se contenter d'un accord nucléaire, si je puis dire. Et ça, c'est ce qu'il vient d'afficher maintenant. Soit d'avoir un schéma de type Maduro, donc un changement à la tête du régime, un changement de modification du régime, changement du régime proprement dit. Et là, effectivement, les voisins de l'Iran, qui désormais considèrent que le principal fauteur de troubles dans la région, ce n'est plus l'Iran, mais Israël, et qui par ailleurs craignent les conséquences sur eux d'une déstabilisation du pays et de réaction du régime, dont les derniers râles pourraient consister à taper, comme il l'avait fait auparavant, sur des cibles dans les pays voisins, donc aussi bien l'Arabie saoudite que la Turquie, les puissances sunnites, demandent à Trump de sursoir, et les Turcs essaient même de faire une médiation pour sauver le régime.
Précisément, Dorothée Schmidt, Erdogan, donc le président turc, à plusieurs reprises propose ses services. Hier à Ankara, le ministre des Affaires étrangères iranien donnait une conférence de presse aux côtés de son homologue turc, et on comprend bien que, vu d'Ankara, l'Iran fait contrepoids à Israël, précisément.
Alors, le premier problème de la Turquie, c'est qu'ils ont 550 km de frontière avec l'Iran, qu'ils sont ultra sécurisés, ils ont construit un mur sur pratiquement 400 km depuis longtemps déjà, parce qu'ils ont des très forts afflux de réfugiés, afghans notamment, pakistanais aussi, qui viennent de plus loin, et ils craignent d'avoir un afflux de réfugiés iraniens en cas de déliquescence complète de la situation intérieure en Iran suite à d'éventuelles frappes américaines.
L'Iran, qui est lui-même un composite avec plusieurs minorités ethniques, dont des Kurdes.
Oui, absolument. Bon, ça, c'est les Kurdes. On va laisser le paquet kurde pour un deuxième point.
Oui, et Dieu sait s'il est lourd.
Alors, j'essaie d'expliquer les intérêts pour la Turquie. Il y a ce première chose qui est la géographie très immédiate. La Turquie, elle a des frontières, et le Turc le répète sans cesse, avec l'Iran, avec l'Irak, avec la Syrie, 900 kilomètres. Donc, et maintenant, ils sont voisins aussi du conflit russo-ukrainien à travers la mer Noire. Donc, en fait, ils ont que des frontières conflictuelles à part la frontière européenne, qui est petite. Donc ce premier sujet, c'est qu'est-ce que pourrait signifier à la comme pression à la frontière turque une catastrophe en Iran. Deuxième sujet, c'est évidemment la stabilité régionale plus largement. Et là, on n'a pas simplement, mais en fait partie, l'idée d'un affrontement symbolique pour le moment, discursif très fort entre Israël et la Turquie. La Turquie et Israël sont vraiment aujourd'hui en confrontation politique. Et de chaque côté se construit l'idée d'une menace. Les Israéliens considèrent qu'aujourd'hui, après l'Iran, c'est la Turquie la première menace. Et les Turcs affirment aussi qu'Israël, maintenant, est une menace pour eux. Je vous rappelle que, effectivement, les interactions d'Israël avec ses voisins, et notamment en Syrie, mettent une limite assez forte à l'influence turque. Et puis, on a la question kurde, bien sûr. Et là, on arrive dans un truc qui devient très, très compliqué, puisque, comme vous l'avez dit, les Kurdes de Syrie aujourd'hui sont obligés, sous la pression du gouvernement syrien, de réduire leurs prétentions à l'autonomie, au contrôle territorial en Syrie. Pendant ce temps-là, la Turquie a entamé un processus de paix avec ses propres Kurdes et le PKK a désarmé en Turquie. Or, ce qui se passe en Syrie risque de faire capoter le processus de paix. Et on a les Kurdes d'Iran aujourd'hui qui, évidemment, vont être embarqués dans la résistance au régime, et ça inquiète aussi beaucoup les Turcs. Et le sujet kurde, dans le bilatéral turco-iranien, c'est toujours très important, parce que c'est aussi une carte que les Iraniens jouent quand ils veulent embêter les Turcs. Ils relancent la guérilla kurde.
La tragédie kurde, et surtout depuis une quinzaine d'années, Myriam Benrad, donc... Pendant à peu près 15 ans, les Kurdes ont tenu la Syrie de Bachar el-Assad se décomposant. Les Kurdes avaient un vaste territoire qu'ils ont nommé le Rojava, avec une expérience politique, administrative, militaire très spécifique. Le rôle des femmes en particulier, des femmes combattantes. Et là, sous la pression américaine, et bien évidemment, le président syrien, donc Al-Shara, un ancien djihadiste, manifestement intelligent et puis un beau mec, comme a dit Donald Trump quand il l'a reçu à la Maison Blanche il y a quelques mois. En tout cas, manifestement un dirigeant fort habile. Eh bien, on voit que les Kurdes hier ont dû signer en fait un accord avec Damas, pour renoncer, en quelque sorte, à cette forme d'autonomie qu'ils avaient forgée pendant une quinzaine d'années.
Oui, alors bon, pour rester d'abord sur cet accord, le dernier, c'est pas le premier. Ça ne sera pas, à mon avis, le dernier en date. Et j'y crois, si vous voulez, moyennement, hein, parce que on est dans un contexte de grande violence en Syrie. donc pour acheter une forme de tranquillité provisoire, les Kurdes peuvent faire mine, en effet, de signer un accord, dire qu'ils vont rejoindre le nouvel appareil militaire et sécuritaire en cours de recomposition, mais on en est très loin, d'autant qu'on sort d'une séquence d'affrontements très violents dans la région d'Alep, ses environs. Il y a eu d'autres violences de haute intensité en Syrie au cours de l'année 2025, contre les Alaouites, contre les Druzes. Donc les Kurdes ne font absolument pas confiance dans ce nouveau pouvoir. Quoi
mais ont-ils le choix parce que
on... Alors c'est si vous voulez c'est la question. Dans le même temps, aujourd'hui il y a quand même une chose que vous avez mentionnée qui change un peu la donne, qui ne permettra ni totalement aux forces gouvernementales d'Ahmed al-Sharaa ni totalement à la Turquie d'écraser la carte kurde, c'est cette résurgence de l'État islamique, c'est la question de ces prisons qui abritent encore des milliers de djihadistes et surtout que, comme vous l'avez aussi mentionné, les Kurdes, bien sûr, ont été en fait à l'avant-garde du combat anti-djihadiste. Alors, ont été trahis, lâchés, abandonnés, tout d'abord par leurs parrains américains, ce qui a aussi quand même permis ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire ces opérations, dans un premier temps, une succession d'opérations militaires turques contre les Kurdes. C'est ce qui permet aujourd'hui à Ahmed al-Sharaa de faire bonne figure. Mais encore une fois, attendons. Moi, j'ai toujours été précautionneuse par rapport à la transition syrienne. J'attends de voir ce que, à l'échelle nationale, Ahmed al-Sharaa va donner en termes de calendrier politique, de transition. On a beaucoup de promesses, mais peu d'actions.
Mais si on reste sur cette, pour le moment, oui. Sur cette question kurde, qui est toujours tellement complexe, à la fois politiquement, économiquement, parce que ça correspond aussi au gisement pétrolier, enfin aux zones pétrolifères au nord-est de la Syrie. Il y a le rôle d'un personnage, on retrouve évidemment un promoteur immobilier, Tom Barrack, un ami du président américain, qui a été nommé comme ambassadeur à Ankara, en Turquie, et aussi envoyé spécial pour la Syrie. Et c'est lui, semble-t-il, qui en quelque sorte, bénit cet accord entre al-Sharaa et Abdi, qui est le chef militaire kurde, pour faire simple.
Je pense qu'en Syrie, on va s'orienter un peu vers un modèle, excusez-moi, l'irakienne, c'est-à-dire que les Kurdes vont sans doute quand même conserver une part d'autonomie. Ça fonctionne assez bien finalement en Irak, je vais vous dire pourquoi, parce que le premier partenaire économique de l'Irak, c'est précisément, du Kurdistan irakien, c'est précisément la Turquie. C'est comme ça que les Kurdes finalement ont réussi en Irak du côté irakien à maintenir un certain nombre de privilèges, une forme d'autonomie, même si ça reste, tout cela reste en tension avec les autorités fédérales. Je pense que quand l'absence, encore une fois, d'une reprise en main du territoire, et puis parce que ces marges syriennes en fait s'opposent, résistent au projet en fait qui est le vrai projet d'Ahmed al-Sharaa, qui n'est pas le projet, je suis désolée de le dire, d'une démocratie mais plutôt d'un régime autoritaire à visage islamiste, on va plutôt vers ces, à mon avis, ces marges autonomes. Ce qui va aussi tout de même après sur le plan économique permettre en réalité des échanges, comme je viens de le mentionner, entre la Turquie et le Kurdistan irakien, par exemple, permettre cette formule économique qui est en fait chère à Donald Trump et que son envoyé, son émissaire que vous venez de citer, à mon avis, a aussi en tête. Les Américains veulent faire la paix au Moyen-Orient aujourd'hui par l'économie. Ils le disent à tout va, c'est le grand deal de Trump, finalement.
Et l'économie, c'est le pétrole. Michel Duclos, vous connaissez fort bien la Syrie, vous y avez représenté la France. Comment interprétez-vous le projet d'al-Sharaa?
Ah, ça, c'est une autre question que la question kurde. Là où je suis.
Mais elles se rejoignent, manifestement,
non, et là où je suis
singulièrement ces jours-ci.
Là où je suis d'accord, c'est qu'il ne faut pas voir en Sharaa un démocrate, naturellement. D'ailleurs, je crois que non seulement il ne faut pas voir en lui un démocrate, mais même il n'a pas cette catégorie de pensée. Puisque dans sa culture politique, ce qu'il a connu, c'est un régime dictatorial à Damas, et ensuite c'est le djihad, ensuite ses potes, c'est Erdogan. Il n'y a pas le concept même de démocratie. Donc il veut sans doute un régime autoritaire. En même temps, il va être une figure nationale. Et donc il a compris, alors peut-être que aussi c'est HD qui l'ont conseillé, peut-être aussi ses conseillers britanniques qui l'ont convaincu de ça, mais enfin, il est suffisamment intelligent pour avoir compris que la Syrie, c'est un pays composite, avec différentes minorités. Quand il était à Idlib. C'est lui qui a réinstallé quelques paroisses chrétiennes. Donc il a cette notion de vouloir être une figure nationale. Maintenant, les Kurdes, il faut bien voir qu'ils sont détestés par l'ensemble des Arabes syriens. Ils n'ont pas été trahis par Washington ou par l'Occident. Ça fait un an que les Américains et les Français leur disent « Bon, la situation a changé, il faut que vous trouviez un compromis avec Damas, on va vous aider, mais il faut que vous aussi vous fassiez des concessions. » Et ça, pour des raisons propres au système kurde, le fait est qu'ils n'ont pas été capables, au cours des mois qui viennent, de trouver un compromis, alors avec un pouvoir qui, de son côté, avait des exigences. Mais un autre point sur lequel il me semble que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que le fait que Damas accepte des marges qu'il contrôlerait plus ou moins et qu'il y ait un Kurdistan syrien qui ressemble à ce qui se passe en Irak, c'est pas là aussi la culture politique syrienne. Où d'abord, ils ont un peu hérité des Français et de leur jacobinisme. Ensuite, justement, comme ils sont très divisés avec des minorités importantes, ils savent très bien que pour qu'il y ait un État, il faut pas que ça soit trop fédéral, confédéral. Je rappelle que les Français avaient commencé leur colonisation en installant plusieurs États. Il y avait un État alaouite, un État d'Alep, etc. Et ce sont les Syriens, l'establishment syrien sunnite des grandes villes qui a dit non, on veut pas de ça, on veut garder un État. Donc je soupçonne que quand même Charra sera dans ce sillage-là. Alors maintenant, est-ce qu'il va y arriver, c'est autre chose, mais il me semble que comme les Américains, comme les pays du Golfe veulent aussi un État syrien pour pouvoir faire du business, la tendance est quand même de ce côté-là. Le seul pays qui veut une Syrie divisée, c'est Israël.
Karim Bitar, ce qu'on a du mal à comprendre, évidemment, c'est la fragmentation, en fait, au sein même de ces pays, qui sont en tout cas deux grands États faillis, la Syrie, c'est évident, l'Irak, on va en parler, mais si l'on reste pour le moment en Syrie, on voit, avec l'impact sur le Liban, et vous en revenez, puisque vous y vivez une partie de l'année, on voit ces poussées, en fait, de désintégration, qui sont confessionnelles, en fait.
Tout à fait. On a touché avec Michel Duclos au cœur du problème, c'est la gestion du pluralisme dans cette partie du monde. Pendant longtemps, la Syrie a en effet souffert d'un jacobinisme assez rigide pendant toute la période bassiste. Et ce jacobinisme...
Bassiste, c'est donc la famille Assad.
La famille Assad et le parti basse depuis 1963. Et cette conception jacobine a nourri les irrédentismes, les frustrations identitaires des uns et des autres. Donc ce rouleau compresseur, on commence à en sortir. Et je crois qu'il faut quand même saluer cet accord qui a été signé cette semaine entre l'État central et les Kurdes. La France et la Grande-Bretagne l'ont salué. C'est un espoir. En effet, comme Myriam disait, il y a des chances que ça capote, que le PKK ne le prenne pas très bien. Mais le défi aujourd'hui est de préserver l'unité, l'intégrité territoriale, la souveraineté de la Syrie. Et ça ne va pas de soi, car il y a des forces centripètes. Israël commence à jouer sur les angoisses existentielles des uns et des autres, notamment dans la communauté druze. L'un des leaders druzes syriens est très proche d'Israël. Si la Syrie devait aller vers une fragmentation, cela aurait immédiatement un effet spillover sur le Liban. Le Liban suivrait la même voie. On a, après l'invasion américaine de l'Irak, tenté d'imposer en Irak un modèle inspiré de la formule libanaise qu'on appelle le consociativisme, c'est-à-dire une sorte de partage des postes entre les communautés. C'est un système qui crée certaines rigidités. Le défi sera d'apaiser les angoisses existentielles des minorités religieuses et ethniques tout en préservant les États-nations, car une fragmentation serait véritablement désastreuse. Et c'est cela, je crois, qui inquiète également tous ceux aujourd'hui qui pensent qu'une guerre avec l'Iran pourrait accélérer ce processus de fragmentation et de chaos.
Donc un scénario de chaos qui, évidemment, Myriam Benrad, vu d'Europe, avec le fait que les Kurdes qui maintenaient en détention des milliers de combattants djihadistes, beaucoup de femmes et d'enfants d'ailleurs, dont des Français, puisque la France refuse en fait de les rapatrier. Donc il y a beaucoup de ces gens qui ont été évacués ces derniers jours vers l'Irak, vers les prisons irakiennes. L'Irak demande à la France de les reprendre. La France dit « on préfère payer pour qu'ils restent chez vous ». Comment peut-on mesurer le danger que représentent en fait ces évacuations plus ou moins coordonnées, plus ou moins surveillées, en l'occurrence par des soldats américains, puisqu'ils sont quand même toujours sur place, eux aussi? Comment peut-on mesurer ce danger-là?
Tout d'abord, il faut quand même préciser que là, parmi ces milliers de djihadistes qui ont été transférés vers l'Irak, on a une majorité d'Irakiens, de Syriens, d'individus qui sont issus en fait du monde arabe et musulman. Une poignée de ressortissants européens, parce qu'on a gonflé finalement leur présence dans les rangs de l'État islamique. La plupart sont déjà en fait, soit ont perdu la vie, soit sont déjà rentrés, ont été incarcérés. Les enfants sont dans des programmes de réintégration. Donc, ça reste finalement là plutôt une question, je dirais, syro-irakienne. Mais cette question du transfert, elle est quand même fondamentale à mon avis, parce qu'elle prouve bien qu'en réalité on est bien encore en présence d'États faillis. Il n'y a pas d'État en Syrie aujourd'hui pour prendre en charge ce risque sécuritaire majeur. Les Kurdes, vous mentionniez le Rojava, tu parlais de Karim, d'irrédentisme, de poussée communautaire, d'anxiété, d'angoisse existentielle. Tout cela, c'est bien sûr le fruit en fait de l'effondrement de ces États-nations. Donc, je veux bien qu'on dise aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, qu'il y a un projet en effet de retour à une forme de reconstruction nationale, etc. Mais entre-temps, on a eu des guerres civiles terribles, des niveaux de violence qui ont en fait pulvérisé la confiance que les communautés avaient entre elles. Donc j'étais la première, par exemple, à dire dans le cas de l'Irak, on avait une survivance du nationalisme irakien, mais que dans le même temps, l'Irak s'était effondré, qu'on est arrivé vers un système fédéral parce qu'en fait, c'était plus ou moins la seule formule qui permettait de juguler les niveaux de violence. Donc j'attends de voir ce qui va se passer en Syrie, mais l'Irak avait été un pays hyper centralisé par ailleurs avant. Hein. Et on n'est jamais revenu à cela après le changement de régime.
Oui, donc, mais pardonnez-moi, si Myriam, un État hyper centralisé avec une minorité sunnite, puisque le pouvoir était sunnite.
Tout comme le pouvoir était à la ouïde du côté syrien, mais oui, avec, encore une fois, depuis tout de même, disons les choses, des guerres qui ont été dévastatrices.
Mais on voit aussi
que c'est très compliqué, juste pour terminer, que c'est très compliqué. Je ne dis pas que ça ne se produira pas, mais je pense que ce sera très compliqué, encore une fois, de ramener ces périphéries. C'est aussi d'ailleurs la formule qu'utilise mon collègue Hamid Bouzarslan, ces marges dissidentes. Ça sera très compliqué de les ramener vers le pouvoir central. Mais peut-être juste quand même pour revenir sur la question là, des djihadistes, ça prouve aussi que Trump est dans une logique d'endiguement, en fait. Hein. Il peut être critique d'Obama autant qu'il le veut, Trump. Il ne fait que perpétuer l'approche qui était celle d'Obama. Plus de grande guerre au Moyen-Orient. On endigue comme on peut. Et c'est bien aussi pour ça qu'ils ont mis un frein, à mon avis, aux ambitions israéliennes d'aller renverser le régime en Iran. Et qu'on va continuer de danser, en fait, un peu sur ce jeu instable. Parce que Trump, à mon avis, n'est pas dans une logique non plus d'hypermilitarisation de ces crises, compte tenu tout de même d'un traumatisme qui est encore très grand. Donc là, c'est une stratégie d'endiguement. Ça se passe très mal. On les déplace et puis on essaie de gérer comme on le peut. Mais voilà, en fait, je vais finir juste sur un point. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment aujourd'hui, je pense, de vision claire de l'après, comme Karim le mentionnait. Nous ne savons pas de quoi l'après sera fait.
Non, mais ça, on ne le sait jamais, par définition.
Oui, mais enfin, par exemple, quand on parle, si vous voulez, de reconstruction d'État, de reconstruction, de grands plans de reconstruction économique, etc., il faut quand même avoir un peu une vision, une stratégie. Et les premiers à ne pas en avoir dans cette région, tout de même depuis très longtemps, vous l'avez dit, c'est une succession d'errances qui a participé, qui n'est pas la seule, mais qui a participé de cette déliquescence, c'est l'absence d'une doctrine américaine. On a aujourd'hui une approche américaine qui est ce qu'elle est, mais qui ne résout pas les crises.
Dorothée Schmidt, ce que l'on voit néanmoins, c'est de la part des États-Unis, de la part des Européens, et bien évidemment d'abord de la part des pouvoirs en place, que ce soit à Damas, à Bagdad, à Ankara, priorité en fait aux enjeux économiques.
Oui, mais alors, sur la question politique, bon, on parle beaucoup de la Syrie parce qu'évidemment, c'est le centre géographique, mais c'est aussi un énorme enjeu pour la stabilité régionale. Et de ce point de vue-là, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Michel Duclos. On a des pressions extérieures extrêmement fortes à la consolidation de l'État syrien. C'est différent de l'Irak de ce point de vue-là, où finalement les interférences extérieures étaient extrêmement fragmentantes. Et là, aujourd'hui, la majorité des acteurs, peut-être à part Israël, sont plutôt dans une logique de replâtrage. Ahmed Charah, il est dans une construction nationale, effectivement, probablement pas démocratique, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas sa culture politique. Mais son premier défi, c'est de recouvrer la souveraineté, c'est-à-dire de quand même d'arriver à contrôler le territoire dans les frontières existantes. Et je vous rappelle que Daesh, symboliquement, avait détruit les frontières de Sykes-Picot. Donc il y a un premier sujet sur les frontières, et les frontières, on a aussi un problème avec les Turcs, qui occupent quand même une partie
et
du territoire.
Et insistait sur un État islamique, oui. Donc il y avait bien cette oui. tradition-là bon,
donc
d'un
on a
État.
On a un problème avec les Turcs d'un côté, mais qui sont un parrain, effectivement, qui sont son allié. On a un problème avec Israël de l'autre, sur le Golan, qui sont quand même avancés davantage encore en territoire syrien, qui surplombent Damas, et qui donc sont un vrai sujet d'inquiétude pour la souveraineté. Est-ce que l'Irak est un modèle ou un repoussoir dans ce contexte ? Là, on voit bien qu'aujourd'hui, quand on déplace ces djihadistes vers l'Irak, c'est que finalement, effectivement, on les met dans le tapis. L'Irak est une sorte de déversoir des problèmes de la Syrie aujourd'hui pour faire passer la consolidation de la Syrie en premier. Et le sujet d'Ahmed Charah important, c'est la participation des minorités. On a une majorité sunnite. Or, il n'a pas seulement un problème avec ces minorités, puisque nous, en France, on s'intéresse effectivement beaucoup à ces minorités. On a un regard peut-être un peu déformant, où on voit tout ce qui se passe comme incident, accident, grave problème, affrontement avec les Alaouites, avec les Druzes, avec les Kurdes. Il y a aussi un problème intra-sunnite potentiel. Ahmed Charah, il vient d'une fraction très radicalisée, effectivement, de combattants. Et aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de gens qui vont rentrer en Syrie, beaucoup de réfugiés, qui sont des réfugiés sunnites, qui veulent participer à ce nouveau fonctionnement politique de la Syrie. Et ça, c'est un énorme problème pour Ahmed Charah, qui lui est un chef de guerre, mais qui doit, et ça revient en partie à votre question, enfin reconstruire économiquement ce pays. Or, c'est le retour de toute cette classe moyenne de Turquie, du Liban, de Jordanie, qui va permettre de faire repartir d'Europe, oui. Alors, c'est peut-être qu'ils auront moins d'appétence à revenir s'ils sont bien installés en Allemagne, mais bon, en partie aussi. Donc, le retour de cette diaspora syrienne qui vraiment veut rentrer en Syrie, bien sûr, pour travailler, pour reconstruire, mais qui va vouloir aussi participer au système politique. Et donc, on a aussi ce sujet de reconstruction d'un consensus sunnite en Syrie.
Karim Bitar, si on élargit la focale, donc on s'éloigne de la Syrie, on inclut encore une fois l'Irak, on voit que le président américain fait pression pour que Maliki, un chiite, ne redevienne pas Premier ministre. Donc il y a, comme toujours, dans un système confessionnel, j'allais dire à la libanaise, ces enjeux de rivalité entre majorité chiite, minorité sunnite. Mais on voit que Israël d'un côté, les Émirats arabes unis de l'autre, ont en fait une vision relativement semblable sur la façon d'appréhender le Moyen-Orient.
Oui, tout à fait. C'est la principale ligne de fracture. Israël et les Émirats arabes unis sont un peu les faucons de la région qui ne verraient pas d'un mauvais œil le remodelage du Moyen-Orient. Les autres puissances sont plutôt des puissances du statu quo, de la stabilité, aussi bien l'Arabie saoudite que la Turquie, que le Qatar, préfèrent ne pas trop bousculer les vieilles habitudes. Ce que vous disiez tout à l'heure me rappelle qu'avec la chute de Bachar el-Assad, c'était la dernière minorité au pouvoir qui est tombée. Puisque pendant longtemps, les pays de la région, depuis la période coloniale, étaient très souvent gouvernés par des minorités. Les maronites au Liban, les sunnites en Irak, les alaouites en Syrie. Aujourd'hui, cette règle est en train de changer. Il reste le Bahreïn où les chiites majoritaires ne sont pas au pouvoir. Le risque, lorsqu'on essaie de bouleverser, de revenir à cette utopie néoconservatrice, de voir émerger un nouveau Moyen-Orient, c'est précisément que les identitarismes ne prennent le dessus. Nous vivons dans un monde où il est très facile de flatter les bas instincts, de jouer sur les populismes, de jouer sur les angoisses des uns et des autres. Donc, je pense qu'en l'absence, comme on l'a dit, d'une stratégie, d'une vision d'ensemble, il faut préserver les structures étatiques existantes. Certains pensent qu'il faut que tout s'écroule pour pouvoir construire du neuf qui serait enfin solide, mais si tout s'écroule, ce sera extrêmement difficile de, à partir de rien, d'avoir des institutions qui permettraient d'éviter une descente aux enfers. On a toujours tendance à penser « ça ne peut pas être pire ». Pendant longtemps, on nous a dit « ça ne peut pas être pire qu'avec Kadhafi ». On a vu que 14 ans après la chute de Kadhafi, il y a toujours des dizaines de milices qui refusent de désarmer, des guerres par procuration, deux gouvernements, une dizaine de puissances étrangères qui interfèrent. Donc cette partie du monde, je ne dirais pas qu'elle est victime d'une malédiction, mais elle doit apprendre à gérer son pluralisme et à limiter les interventions extérieures qui ne viennent qu'apporter, mettre de l'huile sur le feu. Nous sommes toujours, jusqu'à aujourd'hui en Syrie, dans une guerre par procuration qui se poursuit malgré la chute du régime. Il y a toujours des intérêts saoudiens, turcs, émiratis, iraniens, les Russes cherchent à protéger leurs bases maritimes. Donc, aucun de ces pays n'est véritablement souverain. Si en plus les structures étatiques devaient s'écrouler et que chaque minorité devait aller se chercher un parrain à l'extérieur de ses frontières, ce serait véritablement la recette pour de nouvelles guerres incessantes. Mais en effet, Israël depuis longtemps considère que pour pouvoir survivre dans un Moyen-Orient hostile, elle doit jeter des ponts avec les minorités. Donc Israël, dès les années 50, a développé cette doctrine de la périphérie, comme on disait, avoir des relations avec certaines mouvances kurdes, avec certains druzes, avec certains maronites radicaux, même avec certains amazirs en Afrique du Nord. Et aujourd'hui, on a le sentiment que cette doctrine de la périphérie est en train d'être réactivée. Et les Émirats sont un peu sur cette même ligne. Par exemple, sur le Somaliland, les Émirats étaient
alors, le
sur
Somaliland, donc Jérusalem, a reconnu cette frange côtière. Donc, c'est très important parce que, évidemment, c'est sur la mer Rouge. Et là, c'est une partie d'Afrique où les Émirats ont des visées et des investissements considérables.
Absolument. Et si Israël l'a reconnu, c'est en espérant secrètement que le Somaliland accepterait de prendre une grande partie des Gazaouis, peut-être plusieurs centaines de milliers. Israël ne s'en cache pas. Donc c'est précisément ce qui a irrité l'Arabie Saoudite, c'est de voir cette frénésie diplomatique des Émirats Arabes Unis dans la Corne de l'Afrique, vers l'Éthiopie, vers le Somaliland, et de considérer que ce petit frère émiratique était en train de jouer solo. Vous ajoutez à cela les questions psychologiques. Vous savez que MBS avait été...
Donc Mohamed Ben Salman,
le prince héritier avait été un peu coaché, groomé par le chef d'État émirati Mohamed Ben Zayed, qu'il avait introduit auprès des Américains. Donc il y a cette dimension querelle de famille. Mais c'est pas uniquement... Quand bien même ce serait seulement une querelle de famille, on sait par la littérature, par Mauriac et d'autres, que les querelles de famille sont les plus violentes. Mais ça va bien au-delà d'une querelle de famille, car c'est une querelle précisément sur l'avenir de cette région. Faut-il donner la priorité à la stabilité et au développement économique, ou est-ce qu'il faut donner un coup de pied dans la fourmilière et imaginer un nouveau Moyen-Orient par cette idée de paix économique à laquelle, personnellement, je ne crois pas vraiment, parce que tout le monde s'inspire du modèle européen de l'après-guerre. Mais cette paix économique, cette politique des petits pas n'aurait pas été possible en Europe tant que l'Alsace et la Moselle étaient occupées. Donc tant que les questions politiques de fond ne sont pas réglées au Moyen-Orient, penser qu'on peut construire une paix uniquement par des échanges économiques, par des méga business deals entre Trump, Jared Kushner, Israël et je ne sais qui, c'est une illusion. Il faut commencer par affronter de front les questions qui fâchent, les questions territoriales, de colonisation, d'occupation, de réfugiés, du statut final de Jérusalem. Ce ne sont pas des questions aisées, mais elles ne sont pas non plus totalement impossibles. Il faut commencer par les mettre sur la table, ce qu'on n'a pas fait depuis une trentaine d'années. On repousse au calendrier grec les questions difficiles et on nous vend des chimères, l'idée qu'on peut noyer tous ces problèmes politiques dans une sorte de nouvelle Riviera ou autre.
Mais précisément, ces chimères, Dorothée Schmidt, vous travaillez spécifiquement en ce moment à l'IFRI sur ces questions. Évidemment, elles mettent en jeu des intérêts financiers considérables, et pas seulement en ce qui concerne le pétrole. Je lisais ce matin que Al-Shara va lancer un appel d'offres sur les télécoms en Syrie. Donc, on voit bien qu'il y a l'utilisation de ces outils-là pour attirer des investisseurs occidentaux, par définition, ou turcs, en l'occurrence. La Turquie avait beaucoup investi dans la Syrie d'Assad.
Les Turcs, c'est plutôt l'électricité, l'énergie pour le moment, le BTP, et les télécoms, ça sera probablement des acteurs arabes ou peut-être français même. Et là, on parle des infrastructures de base pour permettre aux gens de vivre. La Syrie a été détruite à 80%. Les chiffres pour les évaluations de besoins pour la reconstruction sont absolument monstrueux, puisque la Banque mondiale avait donné une première évaluation à 210 milliards de dollars pour la Syrie, 28 milliards pour Gaza. Gaza, c'est plus petit.
Et Gaza, donc, juste un mot, demain, Israël va enfin autoriser l'ouverture du couloir de Rafah.
Et Rafah est le premier endroit où on va reconstruire, justement, et aujourd'hui, le BTP égyptien est sur les starting blocks pour investir à Rafah. Donc, ce qui est important, c'est, je crois, sur cette histoire de reconstruction, c'est de voir qu'effectivement, le discours de paix par l'économie, c'est un peu comme le disait Karim, mettre la charrue avant les bœufs ou un cache-sexe. Bon, parce que ça néglige la question de la reconstruction politique et sociale. Mais c'est aussi quelque chose qui, à terme, risque au contraire d'accentuer les logiques compétitives et la fragmentation régionale. Donc ça, c'est un vrai problème. Nous, ce qu'on observe, c'est qu'on a d'abord une attrition de l'aide publique. Il n'y a plus beaucoup d'argent pour reconstruire face à ces besoins monstrueux. Donc on va forcément faire appel au privé. Dans quel cadre juridique ? C'est encore compliqué. On vient de lever les sanctions en Syrie. Sur Gaza, on a un problème sur la propriété. Évidemment, pour reconstruire. Donc, on sait que les Israéliens s'intéressent beaucoup au cadastre maintenant. Donc, on est dans des cadres de flou juridique complet. Pour faire intervenir des acteurs privés avec des espèces d'institutions hybrides comme ce Conseil de la paix de Trump, où siègent à la fois des personnalités, des États, parmi ces personnalités Tony Blair, Jared Kushner, qui sont des gens qui seront plutôt intéressés à faire des affaires peut-être qu'à reconstruire vraiment le pays au sens des structures étatiques, comme on le disait. Cette logique de rentabilité économique, elle va évidemment pas se concentrer sur ce qu'on disait sur le pacte social, mais pas aussi sur les régions peut-être les plus sinistrées, parce qu'il va falloir trouver de l'argent facile. Donc c'est vrai que le BTP, dans ce cas-là,
Gaza,
c'est quelque chose très important.
La région la plus sinistrée.
Oui, mais alors vous observerez qu'effectivement, quand Jared Kushner parle de Gaza, il parle de Gaza, il parle jamais des Palestiniens. Or, en principe, l'autorité palestinienne, elle est censée être associée à la reconstruction de Gaza.
Et il y a une commission qui est mise en place.
Oui, oui, tout à fait. Donc on a cette logique économique privée, de privatisation, ces institutions hybrides avec un mélange d'État, de privé et évidemment les entreprises américaines qui se positionnent aussi. Vous voyez le discours de Trump qui s'entend parfaitement avec Ahmed Shara en Syrie. Le seul mot d'ordre, c'est la Syrie prospère. C'est la seule chose que Trump ait compris et sur sa feuille de route pour la Syrie. Oui, Ahmed Shara, certes, a un passé un peu difficile. C'est un garçon qui a eu des tas d'histoires, tas de choses qui lui sont arrivées dans la vie. Mais ce qui compte, c'est qu'il va reconstruire une Syrie prospère. Et j'espère que les entreprises américaines vont venir à terme. Bon. Et au-delà de cette logique de privatisation, la compétition même des investisseurs en Syrie, ça va être des investisseurs du Golfe. Au Liban, ce sont aussi des investisseurs du Golfe qui vont être amenés à travailler. Et le précédent du Liban est très intéressant, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite est chaudée sur l'incapacité du Liban à sortir de son espèce de marasme politique, se cache derrière les institutions financières internationales et dit « tant qu'il n'y a pas d'accord du FMI, moi j'irai pas plus loin ». En revanche, le Qatar annonce de très importants investissements, et notamment pour reconstruire le Sud. Donc derrière, on a à nouveau ces logiques politiques, ces logiques d'affrontement géopolitique qui reviennent, qui sont importantes. Et je vous rappelle que dans le Conseil de la paix, les Américains ont tenu à faire entrer la Turquie et le Qatar. Pourquoi ? Parce que ce sont ceux qui doivent s'occuper du Hamas. C'est-à-dire que ça signifie que les Israéliens, Netanyahou a fini par venir dans son Board of Peace. Les Israéliens vont faire face à une énorme pression américaine pour peut-être mettre sous le tapis cette idée qu'il faut éradiquer totalement le Hamas, parce que la question de la reconstruction va passer en premier.
Néanmoins, le Premier ministre israélien a redit il y a deux jours que, évidemment, l'objectif est de désarmer totalement le Hamas. Mais Michel Duclos, face à ce manque, en fait, de vision d'ensemble, on voit bien, encore une fois, les intérêts économiques, les enjeux sont considérables. Et en fait, on peut se dire que pour les populations, c'est quand même un bienfait aussi, étant donné l'état de délabrement, hélas, de cette région. Où sont ces outils? Hier, le secrétaire général de l'ONU, Guterres, dit l'ONU est au bord de l'effondrement financier. Effondrement financier, effondrement tout court. Qui invoque encore les Nations Unies, ces multiples agences dont les États-Unis sont sortis, pour la plupart, coupant les financements d'ailleurs, en même temps. Donc, où sont les outils qui permettraient une vision d'ensemble?
Alors d'abord, sur le Proche-Orient, je trouve que c'est un peu sévère de dire que les Américains n'ont pas de vision. Ils n'ont peut-être pas une vision très détaillée ou très cartésienne, mais cette idée quand même que ça doit reposer sur un équilibre entre l'Arabie saoudite et Israël, que c'est aux puissances de la région de prendre en charge la sécurité, que eux, là comme ailleurs, ils doivent se retirer, c'est quand même le début de vision. En plus, cette idée d'investissement économique n'est pas complètement absurde, parce que c'est quand même des peuples, il faut quand même se souvenir que à Alep, les grands commerçants étaient déjà sur la route de la soie quand nos ancêtres gaulois étaient encore dans leur forêt.
Donc, et en peau de bête.
C'est pas des...
Et non pas en vêtements de soie.
C'est pas des sauvages. C'est pas des sauvages, les pays arabes. C'est des pays où l'économie compte. Donc il y a quand même des éléments de vision. Et au fond, c'est vrai que c'est une région qui a d'innombrables problèmes, naturellement, d'innombrables tensions. On en a mentionné quelques-unes. Évidemment, ce sera un exercice très compliqué, mais qui doit être fait de hiérarchiser ça. Par exemple, il me semble que l'actuelle rivalité entre les Émirats et les Saoudiens, c'est grave, ça peut avoir des inconvénients, etc. Mais malgré tout, ça ne va pas déclencher une guerre féroce.
Et encore moins. Peut-être au Moyen-Orient, peut-être en Afrique, ça va alimenter
Ça peut alimenter des tensions ailleurs, au Soudan.
Et il y a eu le Yémen quand même,
sont à fond. Mais enfin, il me semble que les Émiriens ont compris qu'il ne faut pas qu'ils aillent trop loin.
Ils ont compris parce que les Saoudiens ont bombardé la Arabie Saoudite, c'est ça?
Enfin, bref, je veux dire par là qu'il faut hiérarchiser les choses. Et les problèmes les plus importants, je crois, ça reste la Palestine. Parce que c'est très très difficile pour n'importe quel gouvernement de la région, même si, d'ailleurs, ils n'ont pas beaucoup de considération pour les Palestiniens, mais comme ils ont des opinions publiques, ça leur est difficile de faire totalement une croix sur ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. Et puis, il y a cette question quand même chiite, Israël ou Iran-Israël. Donc là, après tout, on ne sait jamais. Ça aussi, ça peut avoir une fin. Alors maintenant, les Israéliens se sentent en opposition avec la Turquie. Là aussi, ça ne me paraît quand même pas sur le même plan. Donc, c'est pour dire que malgré tout, il y a un chemin, comme on dit dans les chancelleries, qui peut sinon se dessiner, enfin qu'on peut commencer à apercevoir. Mais comme vous le dites, ça suppose quand même des instruments de coopération internationale plus forts que ce qui existe actuellement. Et vous avez mentionné les Nations Unies, mais au fond, on peut dire aussi la Ligue arabe, d'autres instances ne sont pas au mieux de leur forme. Et effectivement, c'est certainement une difficulté. Une des choses, là, pour voir les choses d'encore plus haut, si je puis dire, que ce qu'on vient de faire, qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le Sud global, les puissances moyennes du Sud, qui critiquent l'ordre international au même titre que Trump, c'était amusant, cette jonction, abat ce qu'on a fait en 1945, tout le monde est d'accord là-dessus, mais malgré tout, les Nations Unies, ça reste quand même un point commun sur lequel énormément de pays dans le monde, du Sud comme de l'Ouest, sont d'accord, parce que on veut bien démolir l'ordre instauré par les Américains, mais on veut qu'il reste quand même des structures qui puissent un peu servir de point de coordination à tous les pays du monde. Et en réalité, je m'aventure beaucoup, mais l'actuel désaveu des structures internationales par l'Amérique, je suis pas sûr que ce soit l'élément le plus durable de l'héritage de M. Trump.
Mais est-ce que les Européens sont en mesure de...
Alors les Européens, il faut bien voir, hein. On dit l'influence de la France, c'est plus ce que c'était, ça diminue, l'Europe ne joue aucun rôle. Il faut vraiment avoir des vraiment points de comparaison. Quand est-ce qu'on a joué un rôle considérable dans la région?
Ben, au moment où on l'a découpé.
Oui, on a joué un rôle considérable à l'époque
du XXe siècle.
De Sykes-Picot, mais c'est quand même assez loin. Et depuis 1945, je ne dis pas qu'on est inexistant, hein, on joue un rôle, naturellement. Il faut quand même se souvenir, par exemple, que quand M. Giscard d'Estaing est arrivé en pouvoir, la France n'existait pas dans les pays du Golfe.
Et les pays du Golfe n'existaient peu.
Ah, ils commençaient à exister.
Oui.
Ils commençaient à exister. Et c'était les Britanniques à l'époque. Oui. Et d'ailleurs, là, ça rejoint votre question sur les grands équilibres. Pendant très longtemps, notre vision qu'on avait de cette région, c'est que le cœur vital, c'était l'Égypte levant. Maintenant, c'est plus les pays du Golfe. Avec dans la mentalité des populations, des opinions, la perception des opinions, l'idée que c'est ça l'Eldorado maintenant. C'est là qu'on veut aller quand on est jeune homme, qu'on a fait des études, on veut être trader dans le Golfe. Donc, je dirais que l'Europe, pour l'instant, c'est évidemment les Américains qui ont la main, c'est Trump qui donne l'impression de tout faire, mais il ne faut pas croire que les Européens ont complètement disparu, qu'ils étaient très forts avant et qu'ils ont disparu aujourd'hui.
Un dernier tour de table, on arrive à une conclusion extrêmement provisoire de cette question complexe. Néanmoins, il est 11h52, un samedi matin. Il y a cette armada, comme dit le président des États-Unis, cette magnifique armada sur zone, donc déployée. On voit cette carte du Moyen-Orient parsemée de bases américaines. Quelques bases françaises, britanniques aussi. Qu'est-ce qui peut se passer dans cet affrontement où le régime iranien, qui semble à bout de souffle, mais qui garde quand même une emprise extrêmement meurtrière, mais réelle, sur ce pays, un Irak très fragilisé, une Syrie que l'on vient de décrire longuement, Israël sur ses gardes, c'est le moins que l'on puisse dire, et on comprend pourquoi. Voilà. Et la Turquie, Erdogan, avec ses ambitions et ses préoccupations légitimes de maintenir, encore une fois, l'étanchéité de son pays. Rapide tour de table. Dorothée, je commence avec vous.
Alors moi, sur l'Iran, je suis vraiment, je sèche, parce que les Américains ont adopté une position complètement maximaliste. Les Iraniens veulent discuter effectivement avec eux, mais uniquement de ce dont on pourrait discuter. Donc je pense que ça dépend beaucoup de la pression des puissances régionales. Et vous rappeliez très opportunément que Tom Barrack, l'envoyé américain, est ambassadeur à Ankara. Et ça explique beaucoup le fait que la Turquie soit revenue dans le jeu énormément. Ce qui, d'une certaine façon, est une chance parce qu'elle déploie maintenant une vraie capacité de médiation un peu tout azimut. Alors, c'est une chance peut-être pour les puissances unies de la région et pour l'Iran. C'est plus compliqué pour Israël. Je suis d'accord avec Michel Duclos qu'évidemment, l'idée d'un affrontement est quelque chose que les deux parties veulent éviter à tout prix parce que la Turquie est maintenant la première puissance militaire de la région, maintenant que l'Iran est affaibli. Donc, ce serait une catastrophe pour les deux. Mais moi, je suis quand même très inquiète de voir le niveau d'acrimonie mutuelle et la façon dont les Israéliens présentent la Turquie comme la prochaine menace stratégique.
Myriam, brièvement, s'il vous plaît.
Écoutez, moi, je pense qu'il va falloir voir si le régime, comment le régime évolue de l'intérieur. Moi, je ne vois
le
pas du tout.
Syrien.
Non, iranien. Iranien. Concernant l'Iran, puisque vous aviez
tout à fait
commencé par l'Iran. Moi, je ne vois pas encore une fois, à l'heure de cette marchandisation de la paix, l'administration Trump aller vers une grande confrontation. Après, elle peut chercher à précipiter ce changement de régime. Le problème étant, et je rebondis sur ce que mon collègue Karim a dit, qu'on est, en fait, on est dans une région qui a été désinstitutionnalisée. Donc comment en réalité mettre en marche cette paix par l'économie, par le marché, lorsque les institutions sont inexistantes ou faillies ou sur le point de s'effondrer? Je crois qu'on est en grande tension entre cette quête de stabilité et, comme vous l'avez dit, finalement aussi la quête du changement qui, elle, au niveau de la jeunesse notamment, des populations civiles, reste une donnée qu'on ne peut pas nier.
Karim Bitar.
On en revient à la fameuse impuissance de la puissance dont parlait Bertrand Badi. Le budget militaire américain aujourd'hui, c'est 1000 milliards de dollars. On est près du trillion de dollars. Et il n'est pas certain que cela puisse se transformer en victoire politique. On a passé 14 ans en Afghanistan, la guerre la plus longue de l'histoire des États-Unis. Et les talibans sont de nouveau au pouvoir après que Trump ait demandé aux Qataris d'aller négocier avec les talibans. Et la situation des femmes afghanes n'a jamais été aussi désastreuse. Israël a aussi beaucoup de mal à transformer ses victoires militaires en victoires politiques. Les Iraniens ont succombé à leur niveau au même phénomène que les Américains, hubris, puis surextension impériale. Ils ont pensé contrôler 4 capitales arabes et ça finit par entraîner le déclin. Donc il y a certaines règles immuables quand même qu'il est temps dont nous tirions les enseignements, mais comme disait Hegel, la seule chose qu'on apprend de l'histoire, c'est que personne n'a jamais appris les leçons de l'histoire, et c'est plus vrai au Moyen-Orient qu'ailleurs.
Michel, dernier mot, diplomate. Hegel, c'est difficile.
Je dirais que Witkoff ou des gens comme ça, certainement souhaitent un accord avec l'Iran. Ce que je crains, c'est que les Iraniens, connaissant un peu leur culture, soient pas capables de faire les concessions qu'il faut, ils en voudront toujours plus, ils seront divisés entre eux, etc. Et donc ça peut déboucher sur, au pire, une guerre civile, qui n'est pas impossible malgré tout, à la suite d'interventions américaines ou pas, mais que le pays sombre dans le chaos, ce qui serait vraiment désastreux pour les Iraniens d'abord et puis pour la région. Et alors, le scénario plus positif, ce serait qu'il y ait effectivement une évolution du régime, donc un changement de direction à la tête du régime, et qu'une nouvelle direction soit capable, là, de trouver un compromis avec les Américains.
Un scénario à la vénézuélienne, en quelque sorte.
En quelque sorte, même si on ne peut pas transposer complètement, parce qu'ils ne vont pas enlever le guide, ils ne trouveront pas des gens qui seront complaisants avec eux, comme au Venezuela, parce que quel que soit le successeur du guide, ce ne sera pas à attendre, hein, de toute évidence. Et donc, ce sera d'une autre nature que la succession de Maduro. Mais il y a une possibilité. De beaucoup de gens ont pensé qu'un jour, il y aurait à l'intérieur du régime les gardiens de la Révolution ou d'autres qui prendraient le pouvoir. Simplement, comme les gardiens de la Révolution ont été pas mal éradiqués par les Israéliens et les Américains, c'est plus difficile de trouver un leader alternatif aujourd'hui.
On ne va pas les regretter pour autant. Merci. Merci à vous quatre. Merci à vous, Michel Duclos. Vous avez publié chez Humensis « La diplomatie française » en 2024 et « La longue nuit syrienne » en 2022. Myriam Benrad, vous venez de faire paraître une nouvelle édition augmentée de votre ouvrage « Djihad, la métamorphose d'une menace » au Cavalier Bleu. Karim Bitar, vous avez participé à un long entretien « Sortir de la fatalité libanaise » dans la revue Confluence Méditerranée ce mois-ci, en janvier 25. Et Dorothée Schmitt, vous avez écrit le chapitre Moyen-Orient, une région en transition forcée, dans un ouvrage paru aux éditions La Découverte l'an dernier, géopolitique et géoéconomie du monde contemporain. Et je signale aussi, du côté de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, une série de papiers sur Gaza vue du monde. Et là, il y a un papier qui sort
du
sur le Canada.
Du reste, la dernière édition, c'est effectivement l'évolution de la position canadienne qui a rejoint donc l'initiative franco-saoudienne pour reconnaître l'État palestinien. Pourquoi ?
Merci, merci à vous quatre. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, à la technique, Guillaume Ficheux, Théa Corler et la documentation de Radio France m'ont aidé à préparer cette émission. Je signale bien sûr le podcast France Culture, Le pouvoir selon Trump. Et dans un instant, nous sommes samedi, les carnets de santé de Marina Carrère-Dancausse. Très bon week-end et à samedi prochain.